Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work édition Clubhouse. Comme toutes les semaines, avec les spécialistes RH qui entourent l'équipe de Happy Work, nous avons débattu d'un sujet. Cette semaine, nous avions choisi de parler de burn-out. Le burn-out est-il le mal du siècle ? Avec les spécialistes, nous allons effectivement débattre du sujet, se poser la question de est-ce qu'on peut éviter le burn-out ? Comment on gère le burn-out ? Est-ce que c'est une fatalité ou finalement, est-ce qu'on peut s'en sortir ? Et même, question très importante, est-ce que ça peut être un atout pour un salarié une fois que le burn-out est bien traité ? Toutes ces questions, nous allons l'aborder pendant ce débat. Et bien entendu, il y avait des interventions de personnes qui étaient sur le stage, comme vous pouvez le faire chaque jeudi à 18h sur la room Happy Work sur Clubhouse. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce débat que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous sur ce live sur Clubhouse, live hebdomadaire, donc exceptionnellement qui commence à 18h30 parce que j'étais en conférence juste avant, donc lamentablement je suis à la bourre, mais j'avais prévenu et ça a été la course en taxi pour arriver en temps et en heure. On a un gros sujet aujourd'hui, très très gros sujet, puisqu'on va essayer de répondre à une question, le burn-out, mal du siècle. Alors bien entendu, on va pas faire que répondre à cette question, on va parler de burn-out, de comment on le traite, de comment on peut l'anticiper, de comment... toutes les conséquences de ça, et de se demander, est-ce que on en parle trop, ou est-ce que c'est véritablement le mal du siècle ? Alors comme d'habitude, je vais commencer par demander à mes chers modérateurs qui m'accompagnent fidèlement depuis des semaines, de se présenter. Donc dans un premier temps, je vous présente Hervé Charles Léger. Bonjour Hervé, comment vas-tu et qui es-tu ?
Bonjour Gaël, bonjour à toutes et à tous. Alors, qui je suis ? Je dirige un cabinet RH et on intervient majoritairement sur le risque psychosociaux, la qualité de vie au travail et l'acceptation au changement dans les structures. Voilà, donc le burn-out, c'est effectivement quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment en ce moment.
Tu seras donc nommé super expert de la journée, mon cher Hervé Charles.
Merci pour la pression, mais ça ira, je vais la gérer.
Super. On accueille Emmanuel Moreau, donc qui fait partie aussi de l'équipe des modérateurs. Bonjour Emmanuel, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Bonjour, Emmanuel Moreau, consultant en recrutement et accompagnateur de la société, la start-up Workwell Together qui traite du CV relationnel. Je vous accompagne à rédiger votre CV pour donner plus de lisibilité sur les réseaux. Et puis, à mes heures perdues, j'écris un peu sur LinkedIn. Voilà.
Super. Super. Merci d'être là, Emmanuel. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de son, les amis. Il faudrait couper vos micros dès que vous parlez plus, parce que sinon, il y a un écho absolument de dingue. Et nous accueillons celui qu'on ne présente plus, l'homme aux mille visages, l'homme aux mille métiers, l'homme qui n'a peur de rien, l'homme qui va vous faire découvrir un métier que même vous n'avez jamais entendu parler. L'ami Benoît Panidis, merci beaucoup Benoît de nous faire l'amitié d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter de façon un petit peu plus sérieuse que celle que je viens de faire ?
Alors bonjour, je travaille à l'heure actuelle dans le monde de l'automobile, mais je n'interviens pas dans ce cadre-là, c'est juste mon travail actuel. J'ai eu, comme tu l'as dit, une vie professionnelle assez multiple, où j'ai rencontré divers univers, et j'ai toujours été actif aussi en dehors de mon travail. Donc j'ai pu rencontrer diverses situations, que ça soit professionnel ou même sportif, puisque je suis issu du monde du sport, qui peuvent s'apparenter à des burn-out ou autres. Donc effectivement, j'espère que je pourrai apporter mes lumières sans être pour autant un professionnel de la psychothérapie dans notre débat de ce soir.
Comment te dire que je n'ai aucun doute en la matière, mon cher Benoît ? Eh bien écoutez, on va commencer. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de burn-out ? C'est vrai que c'est pas le sujet le plus funky ni le plus drôle de la planète, mais il y a un chiffre, moi, qui m'a halluciné, qui est tombé il y a 2-3 semaines. Au moment où on se parle, 2,5 millions de salariés français sont en burn-out. Alors je sais qu'il y a des gens, il n'y a pas que des Français qui écoutent Happy Work ou qui sont sur Clubhouse en ce moment, mais rien que la France, 2,5 millions, et on est numéro 2 mondial du burn-out, le premier c'est le Japon. Et quand je parle aux copains belges, aux copains canadiens, aux copains tunisiens, marocains, algériens, enfin, sénégalais, quel que soit le pays, en fait, le burn-out me semble être vraiment un gros sujet. Je me rappelle au siècle dernier, parce que, et oui, les amis, je suis vieux, j'ai commencé à travailler au siècle dernier, on parlait du mal du siècle, le mal de dos. C'était le mal du siècle, le mal de dos. Et on parlait pas de burn-out. Quand j'ai commencé ma carrière, le burn-out, c'était un truc qui n'existait pas. enfin, qui n'existait pas. En tout cas, peut-être qu'on ne l'avait pas identifié. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup des lumières d'Hervé Charles sur le sujet. Parce que, est-ce que le burn-out, c'est le nouveau mal du siècle? Est-ce que finalement, on n'a plus mal au dos, mais maintenant, on a mal à la tête, au sens quasi littéral du terme? C'est-à-dire que le burn-out, pour rappel, c'est on explose de l'intérieur. Littéralement, on ne peut plus travailler. Si vous n'avez jamais été confronté à un burn-out vous-même, ou avec un proche, le burn-out, c'est ben, on ne peut plus travailler. C'est juste impossible. Même si on voulait, on ne pourrait pas. Donc, Hervé Charles, quand tu vois l'intitulé de la room, le burn-out, mal du siècle, point d'interrogation, est-ce que tu trouves que c'est une question qui fait sens ou finalement, elle n'a que peu d'intérêt parce que même si ce n'était pas le mal du siècle, on s'en fout un petit peu, c'est un mal qui est arrivé, qui est relativement nouveau ou c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant mais qui existait déjà?
Alors, tout comme toi, effectivement, j'étais choqué par le chiffre de 2,5 millions. C'est considérable. Alors, est-ce que c'est le mal du siècle? Je ne sais pas. Je suis du siècle précédent et j'ai simplement la sensation qu'avant, on n'y mettait pas ce nom. On résumait tout sous la notion de dépression. Les gens faisaient des dépressions, même au travail. Et c'est vrai que la grande différence entre la dépression et le burn-out est lié à un état d'épuisement physique et émotionnel lié à une dégradation par rapport à son lieu de travail. La sensation, c'est qu'avant, c'était dépression et c'était un terme assez général et assez générique qui regroupait l'ensemble.
Tu veux dire qu'on n'avait pas fait le diagnostic, en fait, mais que ça existait déjà, on n'avait juste pas mis un mot dessus, c'est ça?
Oui, c'est à peu près ça. Sachant que tous les deux, je crois qu'on est à peu près de la même génération, même certains. Et dans les années 90, effectivement, on était entre guillemets moins que rien quand on sortait d'école, quelles que soient les écoles dont on sortait. Et on disait, il y en a 15 derrière vous, donc on nous faisait trimer. Il y a eu les méthodes Précitron que tu connais et que je connais. Et effectivement, on ne s'occupait pas trop des collaborateurs. On disait, de toute façon, il est dépressif, il ne fait pas un bon collaborateur, allez, on dégage. Et on ne cherchait pas plus à comprendre. On ne s'intéressait pas, effectivement, à l'état des collaborateurs. On s'intéressait majoritairement à l'état de l'entreprise. Le collaborateur, alors je dis pas, je ne vais pas dire que c'est 100%, mais était un élément de l'entreprise. On avait oublié le capital humain important de l'entreprise. Donc dépression plutôt que burn-out. Le burn-out est arrivé après dans la dénomination, sachant qu'il existait déjà.
Oui, complètement. Et puis il faut quand même rappeler, Hervé Charles, que la qualité de vie au travail, donc la QVT, telle qu'on l'appelle, on a découvert ça quand même en France. Il aura fallu attendre 2008 et la vague de suicides chez Renault et chez France Télécom. Il a fallu attendre que des gens se foutent le feu sur leur lieu de travail, s'immolent par le feu pour qu'on se dise « Oh tiens, l'être humain, c'est important ».
Enfin, c'est quand même... Oui, absolument. C'est... Tout à fait,
non...
pardon.
Non, mais c'est quand même dingue, non?
C'est ça, c'est 2007-2009 hein, pour Orange, à peu près, la même chose à peu près sur Renault, si même on ne trompe pas. Et ça a été très compliqué de les faire reconnaître hein, en maladie liée au monde du travail.
Alors, parce le patron souvent... de France Télécom a été condamné à de la prison ferme, quand même.
Oui, on est bien d'accord, mais c'était très compliqué et ça a engagé des procédures assez longues.
Et avant de passer la parole à Emmanuel et à Benoît, Hervé Charles, j'ai une question, pas piège, parce que je suis sûr que tu as une réponse. Pourquoi le burn-out n'est toujours pas considéré comme une maladie du travail?
Alors effectivement, c'est toujours pas aujourd'hui enregistré dans les maladies effectivement qu'on va retrouver sur ce qu'on appelle le document unique. Est-ce que c'est une question piège? Oui, parce que j'ai pas forcément de réponse juste et adaptée ce soir en tout cas.
Ok. Alors, avant de passer la parole à Emmanuel, petit refresh, on parle de burn-out et est-ce que c'est le mal du siècle ou pas. Donc, n'hésitez pas à monter sur le stage si vous voulez témoigner, si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice de cette réflexion autour du burn-out. Emmanuel, toi, c'est qu'est-ce que tu réponds à la question burn-out, mal du siècle, point d'interrogation?
Ben, j'ai été traversé par le mal du siècle. En fait, j'ai fait un burn-out... dans ma précédente carrière où j'étais en fait dans le secteur médico-social sanitaire où effectivement bah, c'est un milieu où on demande quand même à... enfin, c'est plus qu'un métier, c'est une passion en fait.
C'est un sacerdoce, hein.
Voilà, je cherchais le terme, merci, c'est un sacerdoce. Et en fait je raconte, si j'ai deux minutes, je raconte un peu mon histoire. J'étais dans une fondation qui est pas très connue, fusion acquisition, et à l'époque j'ai été nommé un peu l'assistant de la direction générale pour gérer cette fusion acquisition et mettre en place avec le CE et mettre en place avec des membres un comité d'entreprise. Et en fait je suis sorti de ma fonction éducative
pour vraiment mettre tout cela en place. Et en fait, je me suis retrouvé seul à porter cette fusion-acquisition.
Mais en fait, c'est souvent le cas dans les burn-out, ce sont des gens qui vont avoir un excès de travail. Et en fait, toi, j'imagine que tu étais hyper impliqué émotionnellement dans le truc et donc tu ne te disais pas « faut c'est que je ça. Prenne soin de moi ». Tu étais au taquet et à un moment, ça a fait « pouf ».
Voilà, d'autant plus. Et en plus, pour ceux qui le savent, je suis papa de deux garçons qui sont autistes Asperger et à l'époque, ils étaient enfants. Je ne connaissais pas leur diagnostic, je l'ai su longtemps après. Donc avec un environnement familial qui n'était pas forcément tip-top, je me réfugiais beaucoup dans le travail et en fait, à un moment donné, ça a cassé.
Oui, ben c'est normal. Mais selon toi, au-delà de ton expérience, mon cher Emmanuel, est-ce que, parce que j'imagine que tu en as parlé avec d'autres personnes qui ont fait des burn-out, est-ce que c'est le mal du siècle ou finalement ça a toujours plus ou moins existé ou ça s'est amplifié ou est-ce qu'on en prend juste plus conscience et on y prête plus attention?
Je pense que, moi je dirais que, je pense que ça s'amplifie et certaines personnes, alors c'est un peu une réponse de Normand, je suis pas Normand, je pense que ça s'amplifie et que les personnes, oui, prennent conscience qu'il faut pas trop se donner et en même temps, si tu te donnes pas dans ton travail, t'as peur du regard du manager qui te dit, lui, il se la coule un peu douce, l'estime de soi, l'estime des autres, tout ça pour moi c'est lié et effectivement si on a des managers qui prennent pas soin de leurs équipes, qui sont pas bienveillants, je pense qu'on peut vite dériver et aller mal au travail quoi.
Ouais, bien sûr. Alors moi je vais m'inscrire un peu pas en faux, hein, Emmanuel, tu connais ma pensée sur le sujet parce que je pense qu'on est sur un bon trend. Alors, on va en reparler très probablement plus tard, mais avant de donner la parole à Sarah qui nous fait l'amitié de monter sur le stage, j'aimerais bien que notre cher modérateur Benoît Panidis, l'homme aux 1000 visages, aux 3000 métiers, tu as vu, Benoît, je t'ai rajouté 2000 métiers. C'est quoi ta réponse à la question burn-out, mal du siècle, pour l'interrogation, par rapport à ce qu'Emmanuel et Hervé Charles ont dit?
Alors, moi, je dirais burn-out, verbiage du siècle.
Oh la vache!
Parce
carrément, toi.
Moi je suis intimement persuadé que l'avancée de techniques de psychothérapie ou autres font qu'effectivement il y a peut-être eu une détermination en plus très anglo-saxonne de ce que l'on appelait la dépression et un burn-out n'est jamais autre qu'une dépression peut-être liée au monde professionnel.
Là je dis stop, on va pas être d'accord avec Hervé Charles, mais continue. C'est le principe de cette room.
Alors, psychologiquement et physiquement, quelle est la différence entre une dépression et un burn-out qui seraient tous les deux liés au monde professionnel?
Une dépression, en fait, alors je ne suis pas psychothérapeute encore une fois, et je parle sous le contrôle d'Hervé Charles, tu peux avoir un état dépressif qui est une maladie. Le burn-out, ce n'est pas une maladie. Hein. Tu ne chopes pas un burn-out. Tu ne peux pas être né avec une prédisposition au burn-out. Le burn-out, c'est quelque chose qui est la conséquence d'un travail. C'est ça l'énorme différence. L'énorme différence, elle est là. C'est-à-dire que le burn-out, tu peux identifier les causes d'un burn-out et l'éviter. Une dépression, c'est beaucoup plus compliqué. Je parle sous ton contrôle, Hervé Charles, est-ce que tu confirmes ou infirmes?
Oui, je confirme, effectivement. Alors, c'est vrai que le burn-out, c'est surtout on l'a lié au cadre de la sphère professionnelle. Par contre, la dépression, elle concerne tous les aspects de la vie de la personne. Mais effectivement, elle peut aussi rejoindre le lieu professionnel pour rejoindre Benoît tout de même. La différence, surtout, c'est que la dépression, elle va être plus latente, ça va être plus pernicieux, ça va être plus long, ça va aller vers la mélancolie, etc., etc. Le burn-out, ça peut être ne plus pouvoir se lever un matin, ne plus poser un pied par terre.
C'est vraiment une explosion. Et Benoît, ouais, je vais te redonner la parole
absolument
tout de suite.
Mais sachant qu'effectivement, dans les personnes qu'on accompagne et qu'on les structure, on a souvent des repères. Et souvent, les repères chez les gens qui ont une prédisposition au burn-out, en tout cas qui courent vers, c'est souvent des gens qui sont surchargés de travail avec la notion de « je vais y arriver ».
Ce qu'a très bien décrit Emmanuel, d'ailleurs.
Absolument, et je vais y arriver, et d'un seul coup, un matin, ils sont plus là parce qu'ils sont incapables de se lever. La différence, entre autres, avec la dépression, ça va être plus progressif, la mélancolie, etc., etc.
Si je peux me permettre, en fait, le burn-out, c'est plutôt, Benoît, dans la sphère, en fait, dans la sphère professionnelle. On va parler de burn-out parce que c'est en lien avec le travail. On peut avoir la même chose dans la sphère personnelle, mais ça s'appelle la dépression.
Mais et Emmanuel et Benoît, pardon de vous interrompre, parce qu'il faut vraiment qu'on donne la parole à Sarah et à notre chère Léna qui vient d'arriver. Mais Benoît, est-ce que tu n'as pas l'impression que... je ne dis pas que tu n'es pas jeune, mais tu es un peu plus jeune que moi, mais tu n'es pas non plus un perdreau qui vient de naître. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tout ça, c'est qu'une question de vocabulaire et qu'on mettait sous le terme dépression quelque chose qui est un tantinet différent ?
Alors oui, moi je pense effectivement qu'il y a aussi des modes dans le monde médical, de termes, tout comme à un certain moment on classait beaucoup de choses dans la bipolarité, qui est une maladie, comme tu dis,
mais
beaucoup de médecins, étant pas forcément des grands médecins non plus, tout comme des mécaniciens sont pas forcément des Mozart de la mécanique, ben c'est très facile de mettre sous un terme générique qui est en plus très à la mode beaucoup de pathologies. Et donc dans le burn-out, je conviens complètement qu'on peut classer effectivement un épuisement moral total par rapport à une tâche et qui fait que l'employé, c'est vraiment l'unique paramètre. Et si on enlève le paramètre travail, tout d'un coup, il renaît de ses cendres comme un phénix parce que ben, on a enlevé la problématique. Je pense, moi, qu'un burn-out, c'est malheureusement peut-être le facteur travail qui est initiateur de ce qui va être tout simplement la rupture complète avec la possibilité de faire et de ne pas faire, mais je pense qu'il y a un état dépressif qui s'enclenche derrière aussi et qu'il faut traiter. Et je pense que c'est très compliqué de pallier.
C'est hyper intéressant, Benoît, ce que tu dis, parce que j'avais pas percuté là-dessus, mais on va revenir après avoir donné la parole à Sarah. Je pense que effectivement il peut y avoir un burn-out au début qui enclenche sur une dépression parce que culpabilisation de dingue de pas pouvoir faire. Et je pense que l'un peut enchaîner sur l'autre. C'est hyper intéressant ce que tu as dit, Benoît. Mille merci. On va accueillir, si vous le permettez, Sarah. Sarah, merci beaucoup d'être montée sur le stage. Avant d'accueillir notre chère Léna, si tu es montée, j'imagine que tu veux apporter ta pierre à l'édifice. Nous t'écoutons.
Bonsoir. Donc oui, je viens témoigner. Donc j'étais venue témoigner, moi, sur mon... burnout au mois d'avril, donc auprès de vous. Je travaillais dans une entreprise où j'étais dans une cave au sous-sol où il n'y avait pas de chauffage, où j'ai été en arrêt pendant 2 mois. Et je pense que le burnout, en fait, il y a 3 choses à savoir. C'est que déjà, faut reconnaître les signaux. Donc les signaux physiques, les signaux, tout ce qui est mental, c'est arrêter de se dire non, mais là ça va, enfin là ça va pas, mais demain ça ira. C'est reconnaître bah, quand on a des crampes intercostales, quand on n'arrive plus à se lever le matin, quand on parle que du boulot, qu'on a les larmes aux yeux, c'est que déjà, bah, c'est que ça ne va plus.
Ouais, tu m'étonnes. Mais Sarah, pardon de t'interrompre et de te poser une question un peu provocatrice, mais est-ce que tu ne crois pas que c'est le boulot des managers de prêter attention à ces signaux ?
Ah, mais je vous assure, Gaëlle, que moi, quand j'étais en burn-out, mon manager, il n'en avait rien à faire.
Ah mais c'est effrayant, effrayant.
Il voyait que je travaillais jusqu'à 1h du matin, il était super content, mais vraiment.
Donc après, mais est-ce que toi, tu lui disais... Pardon, on se tutoie sur Clubhouse, j'avais complètement oublié, c'est mon côté vieux qui revient de temps en temps.
Ah non, tu peux me tutoyer.
c'est quand même fou ce que tu dis. C'est-à-dire que ton manager n'était pas alerté, mais est-ce que toi, par exemple, tu disais, je vais pas bien... Enfin, c'était évident que t'allais pas bien.
Ah mais oui. Ah mais en fait, tout le monde le savait dans la boîte que je n'allais pas bien. Je faisais 3 postes en même temps. Je suis allée voir la médecine du travail. La médecine du travail me disait que ce n'était pas possible. J'ai été en télétravail pendant 1 mois. Puis ensuite, j'ai été en arrêt pendant 2 mois. Et ensuite, je suis revenue de mon arrêt. Et le soir, j'ai trouvé un autre boulot en CDI. Donc, j'ai pu partir.
Et là, aujourd'hui, tout va bien ?
Et là, aujourd'hui, tout va bien. J'ai trouvé un autre CDI au final et je suis dans le CDI de mes rêves. Tout va super bien.
Tu sais quoi, Sarah ? Ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait plaisir.
Ah, tellement.
C'est
tellement,
trop bien.
Ouais.
Alors, avant de donner la parole à Léna, je suis obligé de poser la question à Hervé Charles. Est-ce que quand t'entends un témoignage comme ça, ça te rend pas fou ?
Ça devrait me rendre fou, malheureusement, c'est ce qu'on rencontre à peu près au quotidien.
Mais non, Hervé Charles ne dit pas ça.
Mais si, parce que c'est impressionnant. Les managers, même s'ils sont sur le devant et qu'ils sont plus à train de craquer que les autres, quand même, faut pas exagérer, mais quand même, eux qui sont sur le devant et qui sont largement en train de craquer, plus que les salariés, on va dire un petit peu en dessous, en respectant chacun, bien évidemment. Et simplement, c'est que c'est pas un manager ce qu'avait tenu Sarah, mais je crois qu'on avait échangé Sarah en aparté, si ma mémoire est bonne, sur LinkedIn.
Oui, tout à fait.
C'est ça, hein, je t'avais donné des infos. Mais effectivement, malheureusement, c'est pas des managers, ce sont des gens qui se retrouvent à la poste de manager et qui ne sont pas des managers. Oui, mais tu sais, d'un âne, t'en frappes un cheval de course.
Non, mais certes, mais j'ai du mal à comprendre comment un être humain peut pas avoir une petite attention à un autre être humain qui est en détresse. Et c'est peut-être mon côté naïf, hein, Hervé Charles, mais à un moment, quand t'as quelqu'un qui est en train de s'enfoncer, enfin, je sais pas, je comprends pas.
Il y en a qui ont besoin de soi, il y en a qui ont besoin d'avoir de l'emprise sur les autres pour avoir la sensation d'exister, d'avoir un poste en disant « je suis manager ». Donc, tu sais, il y en a qui ont été formés, on vient des années 90, on a démarré tous les deux notre carrière dans les années 90, et souvent, c'était « il fallait écraser pour être ».
Ouais, c'est warrior, quoi.
C'est ça. Et en fait, les autres, ce sont des. J'ai entendu pas plus tard que hier des sous-fifres qui sont là pour travailler. Et moi, je suis sur le devant. Voilà.
Moi, juste pour rajouter, pour quand je suis revenue de mon arrêt, mon responsable m'a dit, tu vois, Sarah, tu pensais avoir les épaules pour faire ce poste, mais au final, on a bien eu la preuve que non, tu savais pas travailler et que t'étais pas si forte que tu pensais l'être.
Mais quelle honte. Tu sais, Sarah, pour te rassurer, avant de donner la parole à Léna. Aujourd'hui, je donnais une conférence et je faisais un séminaire avec des managers. Et moi, je suis convaincu, mais au-delà du convaincu par expérience, maintenant, je commence à avoir une certaine expérience, que la meilleure arme contre le burn-out, c'est le management. J'ai été manager pendant plus de 20 ans. À ma connaissance, il n'y a eu aucun burn-out dans mes équipes parce que quand le matin, je vais voir chacun de mes collaborateurs et collaboratrices en demandant « Est-ce que ça va ?», j'attends la réponse. Rien que ça. Rien que ça, si quelqu'un me dit « ben non, ça va pas », qu'est-ce qui va pas ? Ben j'en peux plus, ben rentre chez toi, va te reposer. Le manager, c'est la meilleure arme contre le burn-out et à un moment, va falloir qu'il y ait une responsabilisation. Et moi, j'ai même écrit tout un article sur faire un permis à points du management. T'as 12 points en tant que manager, t'as un burn-out dans ton équipe, moins 6 points. Allez, hop là, et en formation management. C'est pas tolérable. Moi, ce que tu me racontes, Sarah, ça me fait toujours de la peine, mais vraiment. Mais je désespère pas, on va progresser. Ça me fait tellement plaisir que tu aies trouvé un boulot où tu te sens
bien.
Oui,
c'est bien. Après, mon ancien manager, si là, il avait le permis à points, il aurait 0 point parce qu'il y a un deuxième burn-out.
Maintenant. Ouais. Mais à un moment, on va s'en apercevoir parce qu'il faut fidéliser les gens. Alors, les amis, c'est bête, j'ai pas mis les trucages sonores, va falloir que je le fasse parce qu'il y a un roulement de tambour. Il y a la camarade Léna Aka, j'ai envie de t'appeler Coach Léna, j'adore, ça fait tellement radio, Coach Léna, qui nous a rejoint, qui est une des modératrices depuis quasiment le début de cette Room Happy Work du jeudi 18h, alors 18h30 cette semaine. Ma chère Léna, comment vas-tu ? Et s'il te plaît, présente-toi rapidement avant de réagir peut-être au témoignage de Sarah. J'ai le bide tordu là, je dois bien avouer. Donc Léna, salut, comment vas-tu bien ? Qui es-tu ? Et première réaction.
Quel accueil, merci Gaëlle. Salut les amis, salut à tous. Coach Léna, t'as bien raison, je suis coach en leadership, préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau et consultante en recrutement spécialisée IT. J'ai un podcast qui s'appelle Rendez-vous de Coach Léna et je suis super contente d'arriver et d'entendre la nouvelle parce que je me souviens bien de Sarah et de son témoignage. Donc je suis vraiment très contente d'entendre.
C'est un kiff, hein, ça finit toujours bien en fait. Ouais. C'est trop bien. Ouais, moi, je suis content pour toi aussi, Sarah. Mais alors, ta réaction, Léna, par rapport à ce qui s'est dit, par rapport à l'expérience passée de Léna, est-ce que toi, t'es pas consternée ou est-ce que t'es comme Hervé Charles, tu te dis, c'est comme ça ?
Les deux, hein, consternés et comme Hervé Charles, on rencontre cette situation, j'ai envie de dire quasi quotidiennement. Donc, c'est sans surprise en fait. Et la petite phrase que son manager lui a dit à la fin, c'est tellement du réchauffé, je trouve ça pitoyable, mais malheureusement, ça arrive très fréquemment.
Bien, alors, j'ai envie de poser, mes chers amis modérateurs, je vous demanderai maintenant de claquer le micro quand vous voulez intervenir. Est-ce qu'à un moment, on ne devrait pas juste se mettre en colère, taper du poing sur la table? Et j'ai le sentiment quand même qu'il y a de plus en plus de DRH, de patrons et de patronnes qui réalisent à quel point les managers peuvent être toxique, parce que j'ai le sentiment que la tension qu'il y a sur le marché du travail actuellement, il y a de plus en plus de boîtes qui ont du mal à recruter, et ils s'aperçoivent que le management, c'est quand même extrêmement important en termes de bien-être, alors que moi, quand j'ai commencé ma carrière, Hervé Charles, tu peux, j'imagine, témoigner avec moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot. Bah, ce temps-là, je crois qu'il est derrière nous. Alors, peut-être que je vais poser en premier la question à Benoît, toi qui as fait tant de métiers, est-ce que t'as pas le sentiment que pour les jeunes générations, elles se laissent moins faire? J'ai encore eu le cas, bah tiens, ce matin, un cabinet, très gros cabinet comptable qui me dit, mais nous, on a des comptables qui démissionnent du jour au lendemain, des jeunes, qui en ont rien à foutre, même s'ils ont rien derrière, ils savent qu'ils vont retrouver un boulot sous les 48 heures. Est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a une inversion de tendance, Benoît, avec les jeunes?
Alors, j'ai deux visions par rapport à ça. Première vision, effectivement, à l'heure actuelle, quand on regarde plus ou moins les statistiques économiques qui régissent notre pays en ce moment, effectivement, on est quand même sous une barre qu'on n'a jamais atteint depuis pas mal d'années au niveau du chômage. Encore faut-il savoir quel poste et à quel niveau de technicité le poste est voué à être. Effectivement, tu as des postes comme comptable, tu vas avoir des postes avec des bac plus 4 ou 5 où on est quasi au plein emploi. Ce qui fait que le
pas
côté...
quasi, tu peux dire même au plein emploi. Sur voilà. Des bac plus 2 donc, en comptabilité, tu as du métier, tu as du travail jusqu'à la fin de tes jours.
Hein. Voilà. Donc, ces gens-là qui sont en plus une génération de zapping assez ardu dans leur quotidien, même dans leur rapport, sont peut-être assez volatiles si jamais la situation leur déplaît. Toutefois, je vois aussi l'envers du décor, des gens qui sont heureux de trouver un travail, d'autant plus quand c'est un CDI, et s'y accrochent vraiment parce que, bah, tout simplement, même si on est au plein emploi, on n'est pas forcément sur des situations ultra stables, et certaines personnes, et beaucoup de gens, veulent de la stabilité à quelque niveau que ce soit, à quelque diplôme que ce soit. Donc, je suis partagé sur ta vision de dire, ouais, ça me va pas, je claque la porte. Moi, je vois aussi beaucoup de gens, et dans mon quotidien, qui s'accrochent vraiment au boulot et à tous les âges, vraiment. Et même si la situation est compliquée, est tendue, et avec des objectifs, avec la recherche de la qualité sans arrêt, ça mène une grosse pression dans les métiers commerciaux essentiellement. Et je vois les gens s'accrochent, quoi, tant qu'ils peuvent, tant qu'ils tiennent. Et bon, voilà. Après, il y a le management qui fait toute la différence.
J'entends ce que tu dis, Benoît, et j'ai vu que Léna a claqué son micro. Et ma chère Léna, tu as claqué ton micro, donc tu as été obligée de répondre à ma question, que je pose d'ailleurs à tous les modérateurs. Est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas, nous, en tant que vieux sages, j'adore dire ça, vieux sages, apprendre aux jeunes générations, donc quand je dis jeune génération, c'est, allez, on va dire jusqu'à les moins de 40 ans, à dire non. Et à leur apprendre que bah, claquer sa démission, ben, faut le faire de temps en temps, parce qu'il y a plein de gens, moi je vois plein de jeunes managers qui ont moins de 40 ans, moins de 35 ans, donc qui sont sur des secteurs en plein emploi, et ils me disent... Non, mais Gaël, tu sais, tu me parles de bienveillance en entreprise, mais moi, j'aimerais bien l'être, hein, mais mon patron, il n'est pas bienveillant, c'est une ordure. Et je dis, pourquoi tu l'envoies pas chier? Pourquoi tu lui dis pas, je refuse? Il fait, oh, mais tu te rends compte, je me ferais virer. Je dis, oui, et alors? Tu retrouverais un emploi sous 15 jours. Et honnêtement, sur certains secteurs, c'est la réalité. Est-ce qu'à un moment, on ne doit pas réapprendre le courage et dire à un moment, non? Juste non, je n'accepte pas ça. Léna, et je vois qu'Emmanuel claque son micro, donc Léna, tu l'avais claqué d'abord, donc tu es obligé de répondre à la question, je suis désolé, coach Léna. Et je vais taper que coach Léna, je kiffe.
Aucun souci, moi je rejoins complètement Benoît, je pense que c'est pas une question d'âge, je pense que de façon générale, à tout âge, les gens cherchent en tout cas aujourd'hui l'accomplissement professionnel, le bien-être, et donc vont s'accrocher, vont aller jusqu'au bout. Effectivement, à tout âge aussi, on devrait pouvoir dire non, et c'est vrai que même si c'est le plein emploi pour certains postes, hein, encore je le précise, je pense que on est quand même conditionné, on est dans un système où il faut un CDI pour des crédits, pour... Alors, du logement, etc.
Ma chère Léna, pardon de t'interrompre hein, quand même, mais ouais. Moins de 40 ans, bac plus 5, alors certes, c'est qu'une partie de la population active, mais ce sont des gens qui sont managers. Moins de 40 ou 35 ans, bac plus 5, c'est le plein emploi. Et ce sont ces gens qui sont managers. Donc à un moment, moi j'ai plus de 50 ans, j'ai plein de potes qui sont au chômage à plus de 50 ans. Parce que t'es cher, parce que ma génération, elle a pris vraiment cher. Moi, un manager de moins de 40 ans qui est bac plus 5 qui me dit « Oh, je peux pas démissionner », honnêtement, pardon d'être un petit peu virulent, mais bon, on a peu de temps, donc je suis obligé d'aller à l'essentiel, mais ça me rend fou. ça me rend fou.
Mais il y a un conditionnement mental, Gaël. Je pense que...
Est-ce que ce n'est pas à nous de les éduquer, justement? De leur
est-ce
dire...
qu'on ne devrait pas changer le management, déjà, en premier lieu, tu vois?
Bien sûr. Non, mais Léna, bien évidemment. Mais ces gens, ces bac plus 5 de moins de 40 ans, ils sont managers, souvent. Et c'est à eux de faire évoluer. Tu sais, je pense à des grands groupes, je ne peux pas donner de nom, mais quand tu as des gens de ma génération qui managent et qui ne sont pas forcément bienveillants, voire qui sont malveillants, qui encadrent des managers eux-mêmes de moins de 40 ans et qui restent, au lieu de dire « bah non, je claque la porte », à un moment, moi, je connais des grands groupes, notamment des banques, qui réalisent ça et qui sont en train de se dire « Ah ouais, on a un vrai problème. On va vraiment former nos managers de plus de 50 ans parce qu'il y a un vrai problème. » Je pense qu'à un moment...
Mais même les jeunes, hein, je pense, devraient être formés. Et c'est ça qui pêche. Hein. Je m'excuse de t'avoir coupé, Gaël.
Non, mais t'as raison, Léna. Bien sûr que c'est fondamental. T'as raison sur la formation. Mais je crois qu'à un moment... On est dans une période... Enfin, je sais pas, moi, je suis hyper optimiste. Toi, tu ne l'es pas, Léna? Et après, on donne la parole à Emmanuel, puis à Hervé Charles, parce que tout le monde claque le micro. Léna, est-ce que tu es optimiste ou pas, toi?
J'aimerais partager ton optimisme. Oui et non, j'ai envie de dire. Je pense que la formation en management progresse. Maintenant, je n'ai pas encore l'impression que tout le monde se sent concerné ou voit l'utilité justement de former les managers au plus tôt, c'est-à-dire avant la prise de poste ou dès la prise de poste, et pas attendre justement qu'il ait des burn-out ou des difficultés pour justement essayer de sauver les meubles.
C'est tellement juste. Et tu sais, Léna, c'est je parlais, alors c'est pas, je vais pas faire de name dropping, mais je parlais avec quelqu'un qui travaille dans un ministère, et je disais, ça serait bien un moment qu'on réfléchisse à imposer aux grandes écoles, donc nos écoles de commerce, nos écoles d'ingénieurs, tous ces trucs-là, de dire, ces écoles coûtent une blinde quand même. Et de dire, voilà, le deal, c'est tu payes 30, 40 000 euros, parfois 50 000 euros pour 3 ans d'études. Mais le deal, c'est quand le jeune diplômé devient manager, il a automatiquement une formation de 15 jours, 3 semaines qui est intégrée dans les frais de scolarité initiaux pour les former. À un moment, il y a une responsabilité de la formation quand même. Et je crois que le secret, c'est la formation. Hervé Charles, tu voulais... Non, Emmanuel, d'abord, tu voulais réagir. Ensuite, Hervé Charles. Et après, on va accueillir Olivier, qui nous fait souvent le plaisir de venir. Donc, merci, Olivier, d'être là. Mon cher Emmanuel, tu voulais rebondir. Donc, alors, rebondis.
Je voulais rebondir, mais je laissais le fil couler. Effectivement, voulais rebondir sur toi parce que, en fait, moi, j'ai été victime récemment d'un harcèlement au travail. Et en fait, j'ai carrément dit, bah écoute, tu as besoin de moi. Et si tu continues à me parler comme ça, je me casse du jour au lendemain. Je sais pertinemment que je retrouverai un job sous quinzaine. Ah bah, bizarrement, ça a apaisé la situation. Et je pense... Effectivement, oui, on est pris dans des crédits, oui, on est ceci. Ah, c'était une sécurité, j'avais un CDI. Mais alors, c'est personnel. Mais je pense qu'à un moment aussi, en tant que salarié, quand on est emmerdé, excusez-moi le terme, par son manager, je pense qu'il faut savoir quitter et dire non.
Mais je pense qu'il y a quand même, malgré tout, je rejoins ce que disait Léna, une question d'âge.
Ça m'a soulagé. En fait, ça m'a soulagé.
Ça, je comprends.
Et je me suis dit, ah, je suis capable de ça. Tu vois, en fait, c'est ça aussi qu'il faut essayer d'aller chercher derrière. Ah, je suis capable de dire non.
Ouais,
ah,
le boulot ne légitime pas tout.
Exactement. Et
je comprends.
En fait, tu vois, moi, aujourd'hui, voilà, je sais ce que je veux et je sais où je veux aller. Voilà. Et c'est rassurant, d'ailleurs, dans les futurs entretiens que je peux avoir c'est vachement rassurant, t'es définitif, t'es ferme et tu dis bah moi j'accepte ça, j'accepte pas ça.
Non, bien sûr. Non, mais c'est fondamental. C'est pas toujours simple, mais il faut éduquer les gens à ça. Hervé Charles, tu voulais réagir?
Oui, notamment sur la jeune génération. Eh ben moi, je partage pas les avis que j'ai entendus. Je vais te rejoindre, Gaël, où j'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui, les jeunes, en tout cas, et j'en croise, arrivent à dire non. Et ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux que les entreprises peine à les conserver.
La Merci preuve, Hervé Charles de confirmer, certains, je l'entends aussi. Ouais.
Et certains aujourd'hui ont tellement peur de perdre des compétences et des jeunes compétences qu'ils engagent des coachs pour les former sur leur prise de poste, ce qui ne se faisait pas avant, c'était fait en interne. Maintenant, on va chercher des
Hervé Charles, tu es en train de dire qu'on recrute un jeune et qu'en même temps on recrute un coach pour former le jeune, pour l'onboarding et coacher.
Absolument.
Waouh! Ah, parce je ne savais
nous,
pas.
Nous, on le fait, notamment sur une entreprise qui est en Bretagne, sur Paris. Enfin, ils sont 23. Il y a 23 usines dans le monde. On les accompagne. Et là, il y a une prise de poste sur un jeune qui a 27 ans et on l'accompagne sur sa prise de poste de manager.
Alors, Hervé Charles, devant les mondes qui écoutent en live et en replay, je vais t'interviewer juste toi sur Happy Work pour que tu me racontes ça parce que je trouve que c'est incroyable symbolique. C'est fort, quoi.
Mais c'est ça, et la preuve, c'est qu'effectivement, n'oublie pas que d'ici avril, tu me devras un restaurant. C'est tellement fort que les entreprises ont créé effectivement le marketing RH avec la marque employeur aujourd'hui. 91% des jeunes qui candidatent sur une entreprise vont vérifier effectivement l'entreprise avant les états de l'entreprise, mais pas les états financiers, les états de la qualité de vie au travail, sinon ils ne postulent pas. Il y a une vraie recherche de sens aujourd'hui chez les jeunes, en tout cas je le rencontre de manière très régulière, y compris chez les RH. En ce moment, je connais de nombreux RH qui sont en train de partir et les entreprises rament pour les conserver. Donc oui, effectivement, et il y a aussi chez les gens qui ont une tranche d'âge un peu plus élevée, qui se rapproche de la nôtre, combien de personnes ont dit non et entament des reconversions. Combien de personnes de plus de 40 ans on connaît qui ont des fonctions à bac plus 5 qui se disent « mais moi j'en ai marre, j'ouvre un commerce de vin, de fromage ».
Mais est-ce que c'est pas une excellente nouvelle, Hervé Charles?
Ah mais je trouve ça absolument génial, mais c'est génial. Il y a un élément aussi, ça rejoindra aussi la thématique du burn-out, c'est qu'Emmanuel l'a expliqué tout à l'heure dans sa présentation sur le changement fusion-acquisition. Aujourd'hui, avant on faisait une fusion, une acquisition, on mobilisait, on se restructurait, on dégageait, on embaucher, peu importe. Aujourd'hui, j'allais dire qu'une grande partie, la moitié de notre travail, c'est d'accompagner les collaborateurs et les entreprises dans la phase de changement, de rassurer les collaborateurs, de les aider dans les organigrammes, etc., à trouver leur place pour éviter justement la déperdition des compétences et accompagner au mieux chaque collaborateur pour qu'il puisse prendre sa place. Donc, j'avoue que je m'inscris en faux sur ce qui a été dit, je te rejoins. Sincèrement, il y a une vraie prise de conscience de la part des entreprises. Certains managers resteront des ânes, on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas tout révolutionner.
On ne peut pas forcer à boire un âne qui n'a pas soif, comme disait ma grand-mère.
Exactement, mais par contre, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. Il suffit d'aller sur LinkedIn. Il y a 3 ans, 4 ans, il y avait très peu d'offres d'emploi. Aujourd'hui, toutes les entreprises rivalisent pour essayer d'attirer parce qu'elles n'arrivent pas à garder des compétences. Donc, elles se posent des questions en disant « j'ai les compétences, si je les attire, je vais faire quoi pour les conserver ?»
Ouais, et je crois que c'est en fait la meilleure arme contre le burn-out, en fait. C'est que les entreprises sont en train de réaliser ce qui semble aberrant. Moi, je travaille sur le bien-être depuis des années. Ok, je vais faire ma pub 2 secondes. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le bien-être au travail pour les nuls » dans la collection Jaune et Noir. C'est ouf de se dire que les entreprises réalisent enfin que pour garder les gens, il faut prendre soin d'eux. C'est un truc que disait Richard Branson, patron bienveillant par excellence, le patron et fondateur de Virgin, et qui disait, si tu veux que tes salariés prennent soin de ton entreprise, prends soin de tes salariés. Il disait ça il y a 15 ans. Donc c'est, ça prend un sens un peu différent aujourd'hui, je trouve, parce que les gens, si tu prends pas soin d'eux, ils se cassent. Alors on a, je t'en prie, Hervé Charles, non, vas-y.
Juste pour conclure, c'est tellement important aujourd'hui dans la prise de décision des entrepreneurs, c'est qu'il y a quelques années, ils ont créé ce qu'on appelle les CHO, les Chief Happiness Officer, pour s'occuper du bien-être. D'ailleurs, la QVT en fait partie, mais les Chief Happiness Officer s'occupaient ou s'occupent encore aujourd'hui. Alors ils sont un peu noyés dans certains organigrammes, ils s'occupent du bien-être de leurs collaborateurs.
Ouais, c'est très juste. Alors, on va accueillir Olivier sur le stage. Merci Olivier de nous rejoindre. J'imagine que si tu montes sur le stage, c'est que tu veux partager une opinion sur burn-out, mal du siècle, pas mal du siècle. Donc, tu as la parole, mon cher Olivier.
Oui, bonsoir Gaël, bonsoir à tous, à toutes. Merci de m'accueillir sur cette thématique qui m'a concerné. J'en avais déjà parlé lors d'une. On avait déjà eu l'occasion d'en discuter il y a
quelques temps. Tout à fait.
En fait, ce que je voulais simplement, je suis monté parce que il y a eu des petits, enfin des éléments qui ont été évoqués. Alors, par rapport, enfin pour moi, la différence entre un burn-out et une dépression, un état dépressif, on a des sensations suicidaires. Ayant fait un burn-out, j'ai jamais eu une seule fois des intentions de suicide.
Donc, c'est très fort ce que tu dis, Olivier, parce que c'est très vrai. Et, voilà. Mais c'est très juste.
Voilà. Ensuite, merci Hervé Charles d'avoir pu développer ce que les entreprises sont en train de mettre en place aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'à un moment donné, dans une fiche de fonction, alors on peut en fait édifier une fiche de fonction sur un poste spécifique, qu'il soit un poste de manager, de responsable, d'employé. La difficulté, c'est où s'arrête finalement cette fiche de fonction. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, par assiduité, par envie, par plein de choses, en fait, du coup, on va dépasser un petit peu les frontières de la fiche de fonction. Du coup, ça peut entraîner pour moi, à un moment donné, un afflux de trop d'informations et ça rend en fait finalement le comment je pourrais expliquer ça, ça rend vraiment la fonction elle est complètement on s'en va vers un épuisement.
Mais ce qu'ont très bien décrit Emmanuel et Sarah, c'est on te dit on t'embauche pour faire A et puis petit à petit on dit oui non mais tu fais A, tu le fais bien, donc on va te rajouter B, puis C, puis D, et puis on t'en rajoute jusqu'au moment où tu vas exploser.
Et je suis d'accord aussi avec ce que disait Emmanuel, c'est le fait de savoir dire non. Parce que, alors moi, je vais sur 54 ans, je ne suis pas de la génération des jeunes qui aujourd'hui, tu veux pas, non, je ne veux pas faire ça. Voilà, ils s'affirment un peu plus que ma génération.
Parce qu'ils ont été bien éduqués par des parents bienveillants. Tu veux que je te dise, Olivier, mais je le rappelle souvent, c'est quand des jeunes disent « Ah, nous, on est plus malins que vous », c'est « Hé, les gars, c'est nous, on s'en est pris plein la tronche et on vous a éduqués de telle manière que le travail ne vous bouffe pas la vie. » Tu crois pas, Olivier ?
Je suis d'accord, complètement avec ça. Et la dernière chose, alors j'ai posé la question à plusieurs personnes, des thérapeutes, des médecins. Et je la pose à vous toutes et vous tous, quelle stratégie adopter devant un futur employeur au regard de quelqu'un qui a fait un burn-out ? Est-ce qu'il faut le dire ou est-ce qu'il ne faut pas le dire ?
Alors, je crois que je vais d'abord... Enfin, tout le monde va répondre, Hervé Charles, Léna, Benoît, Emmanuel... Je vais donner mon opinion qui, je sais, n'est pas la bonne opinion aujourd'hui. Parce que dans l'absolu, Olivier, je crois que malheureusement, avoir fait un burn-out aujourd'hui, c'est un petit peu comme quand tu as fait un cancer. C'est horrible à dire, mais c'est tabou. Je pense et j'ai le sentiment, alors c'est pour ça que je donnerai la parole en première avec Charles, j'ai le sentiment que de plus en plus de DRH sont conscients qu'avoir quelqu'un qui a fait un burn-out dans l'équipe est un atout. Parce que le burn-out est une clé pour les entreprises. Et que avoir quelqu'un qui a fait un burn-out, c'est la garantie de pouvoir mieux maîtriser les signes avant-coureurs, de pouvoir être mieux sensibilisé, de pouvoir mieux éviter. Et que quelqu'un qui a fait un burn-out, une fois que c'est réglé, et attention, si jamais il y a des gens qui ont fait un burn-out, qui nous écoutent ou qui sont en burn-out actuellement, ne jamais revenir trop vite au travail en se disant « faut que je revienne ». Parce qu'un burn-out maltraité, malheureusement, ça revient très vite. Mais j'ai le sentiment, et encore, je sais pas pourquoi, je suis hyper bisounours ce soir, ou naïf, mais Hervé Charles, tu vas pouvoir me corriger, mais j'ai l'impression que le burn-out est rentré un tout petit peu plus quand même dans la logique des DRH et des recruteurs, et que avoir fait un burn-out, c'est pas une faiblesse, mais au contraire, ça permet d'éviter, de sensibiliser, peut-être d'aller vers plus de bien-être au travail. Hervé Charles, c'est quoi ton regard là-dessus ?
La première chose, effectivement, je te rejoins, il faut que le burn-out soit traité, que la personne, effectivement, soit en situation stable, premier élément. Je te rejoins sur le deuxième point de dire il faut en parler parce que les gens que vous avez en face de vous, pour connaître quand même pas mal de DRH, ils sont pas forcément mieux lotis et je pense que ça va avoir un effet de motivation au sens où dit la personne a le courage de me le dire.
Ouais, et surtout Hervé Charles, et juste pour rappel, beaucoup de DRH ont fait des burn-out suite à la pandémie quand même. Juste pour rappel.
Je vois bien, oui. Malheureusement, je vois bien ce dont tu parles. Effectivement, et certains vont dire, n'osent pas en parler, parce que pour certains, c'est honteux d'avoir fait un burn-out, même si ça se dissipe, cette sensation se dissipe, et c'est tant mieux. Moi, je te rejoins en disant, et Olivier, je crois qu'on avait déjà échangé au téléphone, hein, tous les deux, tu es de Falaise, si ma mémoire ne me trompe pas. Parle-en, il faut en parler, c'est pas honteux, c'est comme les cancers, comme disait justement Gaël, et je crois que ça peut avoir un effet inverse en sens, en disant le courage de. Par contre, effectivement, il faut être stable, il faut s'en servir comme d'une force, dire je suis tombé, j'ai pris conscience d'eux, et maintenant, effectivement, je sais ce que je veux plus, et je sais surtout ce que je veux. Et là, effectivement, ça pourra devenir une valeur ajoutée, il y a un atout, si on peut malheureusement appeler ça une valeur ajoutée.
Mais tu sais quoi, Hervé Charles, je vais donner la parole à Léna, puis à Emmanuel, qui ont claqué le micro. En fait, j'ai fait une réponse mesurée, parce que je suis pas spécialiste de la chose, donc moi je suis juste une sorte d'animateur en fait. Mais en fait, je crois qu'à partir du moment où un recruteur n'accepte pas la globalité de qui on est, bah faut pas y aller. Juste faut pas y aller et que il y a pas de honte à avoir fait un burn-out. Un burn-out, encore une fois, je le répète pour la millionième fois dans ma carrière, sont des gens qui ont trop travaillé. Sont des gens qui ont été trop impliqués. C'est pas un signal de faiblesse. C'est un signal d'avoir été trop impliqué, trop motivé et d'avoir eu un management qui a pas prêté attention à. Et donc, un manager ou un recruteur qui dirait « Oula, t'as fait un burn-out, je veux pas te recruter. » Mais va te faire foutre. Pardon pour le gros mot. Mais dégage, je veux pas travailler pour une personne qui est aussi dégueulasse que ça. Parce que, bah non, c'est pas que j'ai été faible, c'est j'ai trop travaillé, peut-être, bah, je suis allé au-delà et je le ferai plus. Léna, c'est quoi ta réaction par rapport à ça, par rapport à ce qu'on est en train de dire ?
Alors, moi, je vous rejoins complètement et en même temps, j'ai envie de vous contredire.
Ça m'est, hey, coach Léna. Hey, en fait, j'hésite entre coach Léna ou la relou, j'adore.
Ouais, je suis un peu relou là.
Mais non, mais c'est super, c'est tout l'objectif de cette room, justement, qu'on ne soit pas d'accord, c'est très bien. Donc, pourquoi tu n'es pas d'accord, alors, Malena ?
Pour être recruteuse, alors à titre personnel, effectivement, je trouve ça très courageux et très bien que la personne ait fait un burn-out et ait pu s'en sortir et les coronesses d'en parler, pas de souci. Cependant, moi, j'ai pu constater que, parce qu'il n'y a pas que les RH dans le process de recrutement, il y a aussi les opérationnels, et j'ai pu constater que souvent, pour eux, en tout cas pour beaucoup et encore beaucoup trop, c'est un red flag. Et c'est encore malheureusement perçu par beaucoup de d'opérationnels, de managers qui recrutent comme un signe de faiblesse. Les gens se demandent bah, est-ce qu'il va pas retomber, est-ce que cette personne-là n'est pas fragile, est-ce qu'on pourrait lui confier des tâches, etc., etc. Et malheureusement, ça peut être j'ai du mal aujourd'hui.
Non,
un inconvénient.
Voilà. Ouais, mais est-ce que justement, c'est pas un red flag pour la personne qui veut être recrutée pour dire je veux pas y aller. Et je vais te raconter une anecdote et qui remonte à très longtemps, mais très longtemps, enfin à très longtemps, si, à 15 ans. J'étais directeur général d'une structure dans les médias et on monte une structure où je sais, il y a une personne avec qui j'avais travaillé dans un ancien métier, je sais que c'est cette personne qui doit diriger cette nouvelle entité. Elle doit encadrer une vingtaine de personnes, mais je sais que c'est elle. Je la contacte, sauf que cette fille, là c'était pas un burn-out, vient de se faire larguer par son mari, elle est dans une dépression, mais terrible, vraiment, un truc hardcore. Et pour autant, je dis, viens. Et mon président, à l'époque, me dit, je veux la rencontrer, ce qui est normal. Quelqu'un qui va encadrer 20 personnes sur un sujet très stratégique, et elle vient passer l'entretien avec mon président. Juste avant l'entretien, je vais dans un café avec cette personne et elle pleure à peu près toutes les 3 minutes. Mais elle fond en larmes parce qu'elle est en grosse dépression. Et on va à l'entretien. L'entretien commence avec mon président, je suis là, et le président très gentiment, il fait « Alors, il paraît que vous revenez de l'étranger, tout va bien ?» Elles font en larmes. Et l'entretien dure une heure et elles font en larmes 4-5 fois. Donc je me dis « Putain, c'est chaud quand même !» Je raccompagne la personne et mon président me fait venir dans le bureau. Et me dit « Gaël, t'es sûr de cette personne ?» Et je fais « J'ai aucun doute. » Et là, il me regarde, il me fait « Gaël, je te fais confiance. Si tu penses que c'est la bonne personne, bah c'est génial. Si jamais tu t'es planté, c'est pas elle que je vire, c'est toi. » Et j'ai... Et c'était un truc il y a 15 ans, Léna. Il y a 15 ans. Et que justement, à un moment, est-ce que quelqu'un qui a fait un burn-out, sachant que le marché de l'emploi est quand même de moins en moins tendu, sur certains métiers en tout cas, hein, et est-ce qu'à un moment... C'est pas ces gens-là qui veulent pas recruter des gens qui ont fait un burn-out qu'il faut dégager du marché. Je sais que c'est naïf.
Bah, idéalement, hein. Idéalement, oui, effectivement. Mais là, l'expérience que tu racontes, hein, je pense qu'elle est assez exceptionnelle. Je pense qu'elle sort quand même du lot.
Bien sûr, je suis d'accord. Mais ça serait quand même idéal si on avait que ça, non ?
Ouais, mais bon, si on peut éviter que les gens pleurent.
Non, bien, non, mais ce que je veux dire, autant d'humanité de la part du PDG d'une énorme structure, bah, tu dis, ouais, putain, c'est cool. Moi, si je suis arrivé au management bienveillant, c'est aussi parce que j'ai eu la chance de croiser des top managers qui n'étaient pas des enfoirés, mais vraiment, j'ai croisé des enfoirés, j'ai croisé des Dark Vador. Mais quand tu es en contact avec des PDG comme ça, tu dis, putain, waouh, ça envoie, quoi, ça existe. Tu vois ce que je veux dire, Léna, c'est pas foutu.
Oui, bah, ça rend optimiste, en tout cas, ton histoire, c'est bien, ça donne de l'espoir.
Ouais, je crois que c'est mon taf, en fait. Emmanuel, t'avais claqué ton micro, tu voulais réagir à ce qu'avait dit Olivier ou Léna, d'ailleurs, je ne sais pas.
Bah, je voulais, je suis pas forcément d'accord avec Léna en tant que recruteur.
Ouais, baston sur le stage.
Non, parce que, bon, je... Alors certes, je prends mon exemple. C'est pas, c'est pas un burn-out. Si je prends l'exemple de ma rupture de tendon d'Achille plus mon embolie pulmonaire, là, celui-là, s'il vient dans nos équipes, il va nous lâcher. S'il a pas ses pilules là, voilà. Et en fait, je pense qu'il faut savoir l'amener. En fait, il faut savoir amener. Ça fait partie de ma vie. Je vais pas je peux pas mentir. Bon, bah voilà, j'ai eu un accident malheureux en jouant au foot. En plus, je leur dis, en jouant au foot avec mes enfants en bas âge, quoi. Donc, du coup.
Tu veux dire voilà, que tu t'es fait mettre minable par des gamins de 3 ans au foot ?
Ouais, et rupture du tendon d'Achille.
Ah la vache. Bam. Mais alors, peut-être qu'il faut que tu les inscrives au Real Madrid tout de suite, en fait.
C'est ça. Non, mais tu vois, et en fait, bah, indépendamment de ça. Quand tu reçois, quand ton téléphone sonne tous les jours, au moins 3 fois, que tu reçois plus d'une... Là, je suis à plus de 40 propositions en CDI parce que je suis à l'écoute du marché. Et j'en parle tous les jours, moi, ça fait partie de ma vie. Et maintenant, j'ai su l'amener. Et j'ai même, si tu veux, tu as même des conseils de cabinets de recrutement dont je tairai les noms, des grands cabinets qui me disent, bah ouais, monsieur Moreau... Moi, j'ai vraiment envie de bosser avec vous. Alors ça, c'était il y a 6 mois. J'ai vraiment envie de bosser avec vous. Mais par contre, je veux que vous soyez rétabli. Donc, c'est pas forcément une contrainte.
Mais si je peux me permettre, Emmanuel, enfin, ouais. Je trouve que ton exemple est quand même différent du burn-out, qui est quand même psychologique, oui. En fait.
C'est pour ça. Mais après, dans l'échange, ça m'est arrivé au cours de... Alors, pas sur mes dernières recherches, mais ça m'est arrivé d'en parler. Je me souviens que j'en ai déjà parlé et en fait justement moi je dis bah étant passé par je vais pas dire burn-out, étant passé par un épisode de stress aigu, aujourd'hui oui je suis en capacité d'aborder la notion du travail différemment. Tu vois, je vais mettre un peu de rondeur, en fait.
Moi, je suis un peu chafouin, les amis. Et je vais poser la question à l'homme aux 1000 métiers avant de clôturer cette... 3000 métiers, j'avais dit qu'on passait à 3000. Benoît, question hyper simple. Imagine, tu dois recruter quelqu'un et tu es en face de quelqu'un, toutes les compétences, tu t'entends bien avec la personne. Est-ce que, honnêtement, tu préfères pas, alors que tout va bien, honnêtement, la personne, elle est parfaite, toutes les compétences, l'expérience, nickel, que la personne te dise qui elle est vraiment et qu'elle est passée par un épisode de burn-out et que, bah ouais, ça fait partie de sa vie et c'est pas grave, c'est pas une maladie honteuse, comme un cancer n'est pas une maladie honteuse, un burn-out n'est pas une maladie honteuse. Enfin, je sais pas, moi, quand je recrute, enfin, maintenant je recrute plus, je suis indépendant et qu'est-ce que je suis heureux d'être indépendant, mais si jamais je devais recruter, limite, j'en voudrais à un candidat de pas me le dire. Est-ce que la normalité, c'est pas de le dire maintenant? Est-ce que la normalité de demain... Alors peut-être que je suis un peu en avance, mais est-ce que c'est la normalité de demain, c'est pas de le dire? Benoît, je crois que tu es rentré dans la piscine, en fait.
Mais c'est quand même de l'ordre de ta vie privée, hein, Gaël, hein, le fait de le dire ou pas.
Mais je suis d'accord, ça fait partie de la vie privée, mais sauf que c'est causé par le travail.
Oui, mais je pense pas qu'on puisse le mettre en étendard, le brandir comme en étendard.
Non, pas en étendard.
Burnout. Mais et je me posais la même question en disant, mais moi dans mes équipes, quelqu'un me le dit en face de moi, est-ce que je le recrute ou pas? On me l'a jamais dit. Et je me dis en même temps, non, ça serait pas un frein. Encore une fois, si la personne est stable et rétablie, je crois
bien
que
c'est
à la limite.
Mais c'est fondamental.
Mais effectivement, de dire j'ai fait un burn-out et de mettre ça sur le devant.
Non, je suis d'accord avec toi, Hervé Charles. Faut pas le mettre en étendard. Mais
c'est une valeur.
Dire que ça fait partie de sa vie, pour avoir parlé avec des gens qui ont fait des burn-out de un an et de plus longtemps, ouais, ça fait partie de sa vie, quoi. Enfin, c'est un truc.
Pour ma part, les gens ont les compétences. Moi, c'est ce qui m'intéresse.
Bien sûr.
Quel que soit, j'ai une partie des gens qui ont plus de 50 ans, etc. Et ça me
pose
aucun souci.
Ça y est, je suis partagé maintenant.
Et me dire, je suis... mais pas un étendard en disant j'ai fait un burn-out, monsieur, c'est une force, je crois pas.
J'entends, Hervé. Bah, je suis super partagé, je sais pas. Et donc, Benoît est revenu de sa piscine, on lui donne la parole.
Le burn-out n'est pas... Pardon Benoît, le burn-out n'est pas sa force. La force, c'est la relation en fait. Parce que tout se joue dans la relation. C'est pas dans le burn-out que ça se joue dans la relation à recrutement.
Ok. Alors, Benoît.
Alors moi, je vais te répondre simplement. Si je suis un recruteur, ce qui m'intéresse, c'est l'explication de deux choses. Si la personne dans son parcours...
Et je crois que Benoît a un vrai problème de connexion parce qu'il a disparu de la room. Donc, désolé. Donc, Benoît va revenir. Ah, ça y est, Benoît, tu es revenu. Mais dis donc, mais il faut arrêter de plonger dans la piscine,
non,
mon Benoît.
J'ai un réseau qui capte pas bien là où je suis.
Bouge plus, on t'entend bien.
Si je suis recruteur, ça va être un trou qui peut m'alerter éventuellement sur un CV. Lui demander, monsieur, bon, voilà, de telle période, vous étiez là. Et puis là, après, il se passe quoi exactement? Et la personne peut éventuellement me dire, effectivement, j'ai eu ce genre de problématique. Ce qui va m'intéresser, c'est les deux formulations. Première formulation, qu'est-ce qui a été peut-être indirectement la cause de, c'est pas une faiblesse, de cet épisode. Et ce qui va m'intéresser surtout, vraiment, c'est l'argumentation de qu'est-ce que j'en ressors et qu'est-ce qui en fait peut-être une force pour moi maintenant. Après avoir traversé effectivement ce phénomène, qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce qui effectivement peut me donner?
Ouais, c'est le discours derrière le burn-out, et pas juste dire, comme le disait très justement Hervé Charles, j'ai fait un burn-out et je suis génial, mais au contraire de dire voilà ce que j'en ai appris.
C'est un discours très sportif, on peut tous perdre.
Bien sûr.
Ce qui est intéressant, c'est comment gagner.
C'est super intéressant, Benoît. Ouais, c'est très juste. Voilà, comme d'habitude, je commence cette room avec une opinion, je finis avec une autre. Donc, merci les amis. Et comme d'habitude, on va finir avec le mot de conclusion des camarades des camarades modérateurs. Donc d'abord, merci Sarah, merci Olivier d'être monté pour partager vos expériences. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie d'être inversement galant et qu'on conclue par Coach Léna, dernière arrivée, dernière partie. Et Hervé Charles, ça serait quoi donc ta conclusion sur burn-out, mal du siècle, point d'interrogation?
Je ne sais pas, ce sera mal du siècle, on va bien voir avec le côté anxiogène qu'on a aujourd'hui. Moi, je dirais simplement que rien ne vaut votre santé. Donc si demain vous êtes mal au travail, eh ben, changez-en, parce qu'effectivement un burn-out, ça peut vous tomber dessus à tout moment et sur tout le monde, et que rien ne vaudra jamais votre santé, que vous retrouverez un job quel qu'il soit et vous prendrez du plaisir ailleurs. Peut-être que vous avez un mauvais manager, c'est peut-être ça, hein. Et si demain vous êtes manager et que vous voyez des collaborateurs qui sont en situation de faiblesse, interrogez-vous et demandez-leur directement pourquoi ils ont été démotivés et surtout comment ils ont été démotivés. Cette question de poser comment ils ont été démotivés vous donnera peut-être des solutions, des outils pour mieux l'accompagner, en tout cas dans votre rôle de manager. Sinon, si vous êtes à l'inverse, le salarié, changez de manager, changez d'entreprise, si elle n'est pas capable de reconnaître vos compétences.
C'est très juste. Hervé Charles, tu l'as dit plein de fois, mais rien ne légitime qu'un travail nous bouffe la santé, nous bouffe la vie. Et allez suivre Hervé Charles Léger sur LinkedIn, allez voir son entreprise. Enfin bref, c'est très important. Et Hervé Charles est vraiment un gros spécialiste du sujet. Donc, si jamais vous avez des questions sur le sujet ou si vous êtes un DRH et vous dites « Oh tiens, je vais peut-être m'occuper enfin de ce problème de ma boîte », Hervé Charles Léger sur LinkedIn.
Merci, c'est très gentil.
C'est pas gentil, c'est normal et c'est sincère. Mon cher Emmanuel Moreau, alors, burn-out, mal du siècle ou pas ?
C'est un peu le mal du siècle. Moi, la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher Steve Jobs.
C'est très juste. Donc, Emmanuel Moreau, le philosophe de la bande, pareil sur LinkedIn. Vous pouvez aller voir ses écrits. C'est toujours très, très intéressant. Mon cher Benoît Panidis, l'homme aux 25 000 métiers, aux 10 000 vies et aux 20 000 opinions. T'as vu, plus ça va dans la room, plus je monte dans les chiffres. J'adore ça. Ouais. Mon cher Benoît.
Alors, tu vois, Emmanuel, j'ai bien aimé ta situation, mais cité par un homme qui a trouvé, pour éviter les burn-out de ses employés chinois qui se suicidaient dans ses hôtels sur leur site de Apple, une solution qui était assez radicale, hein, c'est pas le bien-être au travail, c'est de mettre des filets pour pas qu'ils tombent plus bas. Ça me fait un peu bizarre comme prisme, tu vois.
Mon Dieu, parles de quoi, mon Benoît ?
Steve Jobs, fondateur de Apple, avait des employés qui, pour surcharge de travail, dans les sortes d'hôtels travail, puisqu'il travaillait...
Mais Steve Jobs était un monstre, tout le monde le sait, ça.
Voilà. Donc, ils avaient un problème de suicide au travail dans ces usines, quand les gens revenaient...
Non, mais Emmanuel a parlé de Bill Gates, pas de Steve Jobs. Hein.
Si, Steve Jobs, la citation, là, Emmanuel.
Ah pardon, j'avais entendu, alors autant pour moi, parce que Steve Jobs était un monstre.
Effectivement, ils avaient réfléchi comment éviter que ces gens, un peu comme les coursives de la santé, sautent et se suicident par surcharge de travail. Ça n'a pas été d'améliorer leurs conditions de travail et d'améliorer leur bien-être psychologique, ça a été de mettre des filets, comme ça au moins ils ne tombaient pas très bas.
Comme quoi, on peut avoir des jolies citations et avoir des comportements de merde.
Exactement.
Après, c'est un bon résumé ou pas, mon Benoît ?
Voilà, c'était peut-être pas les siens, mais c'était en tout cas ceux de sa société. Moi, ce que je dirais pour éviter le burn-out, et si on peut l'éviter, tant bien que mal, c'est ne résumez pas votre existence à uniquement le prisme de votre aura au travail. Le travail n'est pas ce que vous êtes, c'est une partie de vous, mais ce n'est pas tout ce que vous êtes dans la vie.
Notre vie n'est pas le travail, mon cher Benoît, et je sais qu'on a ça en commun, et c'est tellement vrai. Et on va conclure cette room avec la parole de Coach Léna. Donc, ma chère Léna.
Merci Gaël.
Le burn-out, mal du siècle ou pas ? Donc, Coach Léna Aka, que vous pouvez retrouver également sur LinkedIn, qui est coach, qui peut vous accompagner. Bref, je kiffe Coach Léna, donc suivez-la. Dis-moi.
Quelle page de pub ? Alors, on vit dans un monde hyper connecté, un monde de plus en plus stressant. Donc, je pense qu'on a tous assez de pression comme ça sur les épaules. Alors, je rejoins ce que vous avez dit, préservez votre santé et faites de votre mieux. Voilà.
Bah ouais, faites de votre mieux. Je trouve que c'est un bon dernier mot. Faites de votre mieux, c'est ce que je dis moi très souvent à mes enfants. C'est je m'en fous si vous avez une mauvaise note. Si vous avez fait de votre mieux, bah voilà, vous avez une mauvaise note. C'est pas la fin de ta vie. Si t'as eu une mauvaise note en maths, bah tu feras mieux la prochaine fois et on va essayer de comprendre pourquoi t'as eu une mauvaise note, etc. C'est depuis tout petit qu'on apprend ce genre de choses et je pense que apprendre à gérer ses stress au travail, ben ça commence tout petit en arrêtant de foutre la pression à nos enfants comme des fous furieux. Vous savez, c'est pas un mystère si en Corée du Sud, si au Japon, c'est au taquet sur les burn-out, c'est parce que la pression, elle est depuis qu'ils sont tout petits. Donc commençons à détendre nos enfants sur le côté quand t'as une mauvaise note, t'es pas une merde. Quand t'as une mauvaise note, bah c'est pas la fin de ta vie, c'est tu vas apprendre de ta mauvaise note pour progresser. Donc bah comme d'habitude, j'ai appris plein de choses pendant cette room, donc j'ai pas de mots pour remercier Hervé Charles, Emmanuel, Léna, Benoît, mille merci Sarah, Olivier d'être venus partager vos expériences. Sarah, énorme kiff que après ta sale expérience, tu sois dans un bon truc. Ça c'est quand même un vrai bonheur, comme quoi c'est vachement bien que tu sois venu témoigner pour dire bah, qu'après un burn-out, bah, on peut vivre quelque chose de bien. Donc Sarah, merci du fond du cœur.
Merci à vous.
Bah, c'est normal. Et eh bien écoutez, je vais vous dire à la semaine prochaine. Et là, je vais me faire gronder par les autres modérateurs parce que la semaine prochaine, je n'ai pas préparé le sujet de la semaine prochaine. Donc bah, on va réfléchir et je vais vous proposer. Donc ça sera jeudi à 18h. Pour celles et ceux qui arriveraient en retard, eh bien écoutez, ça sera en replay à partir de samedi sur toutes les plateformes. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces replays et c'est tellement bien, je n'ai de mots pour remercier mes chers modos qui sont toujours là. Petite pensée pour notre chère Laurane qui est d'habitude modératrice mais qui est covidée actuellement. Donc, prenez soin de vous, essayez de pas choper le Covid parce que ça pue. Moi j'ai un Covid long depuis mars 2020 et ça pue. Voilà les amis, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, on se dit à la semaine prochaine et amusez-vous bien surtout. C'est important ça, amusez-vous bien.
À la semaine prochaine.
Ciao bonne les soirée. Amis.
Bye bye.
Et je ferme. Vive Bob. Vive Bob comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous et surtout, bah, j'allais dire, et surtout prenez soin de vous. Le mec qui raconte n'importe quoi. Je ferme cette room dans 3, 2, 1. Ciao les amis. Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM.